Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On est ravis d'accueillir Bastien Vivès aujourd'hui pour la sortie de son nouvel album Une sœur, paru chez Casterman hier. Bastien, vous
bonjour.
Dites souvent...
Bonjour.
Bonjour.
Vous dites souvent que du plus loin que vous vous rappelez, vous avez toujours dessiné, et en particulier avec votre petit frère. Après avoir intégré l'école des Gobelins pour apprendre l'animation, vous y élaborez vos premières planches. Et c'est Casterman qui éditera votre première BD en 2007, intitulée Elle. Le goût du chlore sort l'année suivante. C'est un succès. Ce titre est salué par le public et la critique et vous vaut le prix Révélation au Festival d'Angoulême. Paraissent ensuite La Boucherie et Dans mes yeux, qui, vous le direz plus tard, sont issus du même chagrin d'amour qui vous avait fait Le goût du chlore. J'espère ne pas dire de bêtises.
Je suis tellement loin de tout ça maintenant.
Tant mieux pour vous.
Ouais.
Vous continuez votre bonhomme de chemin en collaborant avec Thomas Cadenne et Merwan Chaban. Et puis Paulina sort en 2011, deuxième énorme succès. Vous obtenez le Grand Prix de la critique et l'histoire de cette jeune danseuse a été adaptée l'année dernière au cinéma. Vous nous faites virevolter avec Paulina, donc. Vous nous faites rougeoyer avec votre BD pornographique Les Melons de la Colère. Vous nous faites méchamment marrer avec votre blog qui par la suite sera publié chez Delcourt. Vous nous faites vibrer au son de la moto de ces 4 sizes à la française dans la grande Odalisque et Olympia avec Rupert et Mulot. Et depuis 2013, avec vos comparses Balak et Michael Sanslaville, vous vous plaisez à nous raconter dans Last Man le destin du jeune Adrian Velba et du mystérieux Richard Aldana. Déjà 9 volumes pour ce manga à la française que vous avez aussi décliné en jeu vidéo et en série animée. Vous revenez donc aujourd'hui à vos premières amours sans jeu de mots. Un récit touchant sur la fraternité, l'adolescence et la naissance des désirs le temps d'une semaine au cœur de l'été des 13 ans du jeune Antoine. Alors, avec une sœur, vous vouliez revenir à quelque chose de plus intime? Est-ce que 4 ans de la semaine, est-ce que c'est épuisant?
Oui, je pense pas que ce serait si épuisant. Vraiment, quand on voulait imiter les Japonais, on a tenu vraiment, je crois, 2 ans avec leur rythme de production. Mais même, on était 3 et pour le coup, je suis pas avec un manchot parce que Michael Sanslaville, je pense que c'est un des auteurs de BD aujourd'hui qui a un des dessins les plus faciles et les plus efficaces. Et même avec lui. Putain, c'est le rythme qu'ils ont les Japonais, je ne comprends même pas comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir. Même si on dit qu'ils ont des assistants et tout ça, mais ce qui est pesant, c'est au bout d'un moment, c'est de ne penser à Last Man, mais tout le temps. Et c'est ça qui est très compliqué, quoi. Quand tu passes 4 ans et chaque soir, chaque matin, tu te réveilles, tu dis « Ah non, mais attends, Richard, il pourrait faire ça, puis là, il pourrait se passer ça, puis en fait, ce dessin, il pourrait être comme ça. » Et c'est très compliqué quand on tous les moments qu'on avait un peu off, quand on allait, je sais pas, à un festival, n'importe quoi, pour juste boire des coups, ben quand même dans le train, on parlait de notre histoire, comment est-ce qu'on allait la faire évoluer. Donc c'est passionnant, mais ça prend bien la tête. Et une sœur, je l'ai fait parce que au bout d'un moment, il me fallait une récréation, parce que c'est bien d'avoir tout le temps la semaine en tête pendant 4 ans, mais on s'en rend pas compte. Mais nos vies changent en 4 ans. Je pense à Mickaël qui a eu au moment où on commençait Asman, sa meuf elle est enceinte, aujourd'hui il a un gosse sur les bras et il est divorcé. Donc c'est quand même rigolo de se dire que en fait nos vies avancent vachement vite et même plus vite que les personnages, et parfois ça fait du bien de juste de penser à autre chose et de refaire un point sur je sais pas sur ce qu'on a envie de raconter sur autre chose. Donc mais c'est vraiment un bouquin que j'ai fait comme une récréation pendant tout l'été 2016. Voilà.
Donc ça se passe le temps d'un été et vous l'avez fait pendant l'été?
Et oui, je l'ai fait, mais c'est marrant, j'ai déjà fait la même avec Le Goût du Chlore. J'ai commencé une sœur, je l'ai commencé vers fin mai et j'ai terminé fin septembre, donc dans 3 mois, et je faisais Last Man à côté. Ce qui fait que ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas une histoire de fatigue physique. C'est que, en gros, parce que je dessinais 2-3 planches de une sœur et une planche de la semaine par jour. Je dessinais 10 fois plus, mais vu qu'il y a une espèce de récréation, on est en train de penser à autre chose et on retrouve une énergie qu'on avait un peu oubliée. Et c'est assez rassurant, je trouve. La plupart du temps, quand on se dit qu'on est très fatigué quand on dessine et que la BD c'est compliqué, que c'est épuisant et tout ça, c'est parce que. Bah, peut-être qu'on travaille trop de manière trop bête, peut-être. On est peut-être trop comment dire, focus sur il faut comment dire prendre un peu de récréation et en fait de l'énergie pour dessiner, on en a plein, on peut dessiner toute la journée et pas être crevé à la fin sans aucun problème.
Et là vous vouliez faire le focus sur quelque chose de plus intimiste, vous vouliez mettre un petit peu de côté toutes les bastons de la semaine.
Oui,
et
puis c'était aussi de revenir à quand même des, moi j'ai toujours une tendance à revenir dans les trucs un peu cul, un peu voilà, dès que c'est un peu du touche pipi, tout ça, les gamins, j'adore, je trouve ça super. Donc j'avais tendance à venir, le fait d'avoir fait grandir tous nos personnages dans la semaine faisait qu'on avait plus trop de gamins et au bout d'un moment c'est pas que j'y trouvais plus mon compte, mais j'avais voulu retrouver cette atmosphère qu'on avait aussi un peu au début dans la semaine avec Adrien quand il est jeune. J'adore faire parler les gamins, les rapports adolescents et tout ça. Donc bon, je suis retourné. D'habitude, j'ai des gamins qui sont un peu plus vieux, là, ils sont un peu plus jeunes. Et c'était chouette de les avoir comme ça.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch vite fait de l'histoire d'une sœur?
Oh, mais c'est l'histoire donc d'Antoine, qui a 13 ans, qui aurait rêvé d'avoir une grande sœur, et qui aurait presque dû avoir une grande sœur, parce que sa mère avait fait une fausse couche, et il l'apprend au début du livre. Et il se retrouve en vacances avec son petit frère. Et puis, une amie de la famille va débarquer avec sa fille Hélène, qui a 16 ans, et qui, elle, pour le coup, aurait aimé avoir un petit frère et aurait dû avoir un petit frère parce que sa mère débarque parce qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle a perdu le gamin, bref. Donc, c'est une espèce de petit drame au début. Et ils vont se retrouver, ils se connaissaient pas avant, ils vont passer une semaine ensemble dans cette maison en Bretagne. Et de là va naître une vraie relation qui sera entre l'amitié, entre je sais pas, la relation familiale, autre chose, quelque chose qui fait que voilà, lui aurait rêvé d'avoir une grande sœur, elle d'un petit frère, et ça va motiver tous leurs actes et puis tout ce qu'ils vont faire par la suite dans le livre.
Il y a de l'amour fraternel, il y a de l'amitié, mais il y a aussi les émois adolescents,
oui.
les hormones en folie qui commencent à se mettre en marche.
Oh, lui, il est un peu petit, il n'a pas trop le temps de comprendre trop ce qui se passe à 13 ans. Mais il va passer de l'enfance où il dessinait des Pokémon avec son frère à descendre des demi-bouteilles de vin et embrasser les filles. Quoi. Donc ça va être une semaine assez intense pour le petit Antoine. Voilà.
Et l'enfance et l'adolescence, c'est vraiment ce qui vous motive, les histoires d'adultes,
À raconter, oui, j'ai du mal à raconter des problèmes, en fait. J'ai du mal à raconter les problèmes, j'ai du mal à raconter tout ce qui se passe. J'aurais pu exactement raconter la même histoire, et je pense qu'elle aurait été d'autant plus crédible si ça avait été des personnages, voilà, si ça avait été une nana de 30 ans, un mec de 28, voilà, j'aurais raconté ça, ça aurait absolument eu aucun intérêt, parce que ça aurait été, voilà, c'est une histoire qui se passe, ça aurait été réaliste. On serait retourné avec des personnages qu'on connaît, des gens qu'on connaît. Là, tout d'un coup, le fait de placer ça à un moment très précis où les gamins sont, enfin, où les protagonistes sont plus jeunes, c'est la naissance, c'est les premières émotions et c'est d'autant plus fort. Donc ouais, moi j'ai toujours tendance à aller fouiller un peu vers l'enfance et l'adolescence parce que c'est là où les émotions sont les plus fortes. Après, il y a d'autres sujets qui sont à traiter avec l'âge adulte qui sont incroyables. Je sais pas, par exemple, le fait d'avoir un enfant ou le meurtre, je sais pas, des choses comme ça. Bref, qui sont peut-être des sujets plus adultes. Et ça sonnera juste, alors que une histoire d'un gamin tueur, c'est pas très crédible, quoi. Mm-hmm. Bon, c'est pour ça que je préfère quand même les problématiques. C'est même pas des problématiques, mais je préfère parler des gamins parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Et le moindre petit drame, on peut vraiment faire un drame très léger, ou alors ça devient une montagne. Et tout dépend de. Et puis c'est bien. Il y a quelque chose aussi que j'adore avec les gamins. C'est la manière qu'ils ont de passer d'un sujet à un autre et qui est hyper agréable et qui marche parfaitement bien avec la bande dessinée, qui est qu'on passe d'une case à une case à une autre, on passe d'ellipses comme ça, et c'est très très agréable d'avoir ce genre de rythme. Parce que par exemple, il y a un petit personnage, le petit frère qui s'appelle Titi et qui a 9 ans et qui est là et qui met je me suis servi de ce personnage pour mettre un rythme hyper important dans l'album. Il passe un sujet à un autre, paf paf paf, on va faire autre chose, tac, on va aller chercher des crabes, on revient, et c'est génial d'avoir des personnages comme ça. Alors que on aurait j'aurais peut-être eu tendance à m'enliser si ça avait été des histoires d'adultes ou ah oui, bon, il faut aller au marché, bah, il faut prendre la bagnole. Ah ouais, mais attends, les clés, elles sont où ? Ah, tu mais t'as passé les clés. Enfin, sous, c'est très chiant. Voilà,
on le voit un tout petit peu au début quand les parents, justement, se rendent compte que
oui,
le frigo ça, est cassé. Donc, ce sont les parents qui s'occupent des problèmes, justement. Et là, les enfants sont dans une parenthèse enchantée où je vous ai entendu dire ça.
Les gamins, dès le début, voilà, ils arrivent dans la maison et c'est inondé. Et en trois cases, les gamins ils sont là genre mais quand est-ce qu'on va à la plage ? Et ils font mais on peut pas, c'est inondé, il faut aller chez Darty, il faut aller machin. Et juste en deux cases, on a tout le bordel que ça peut être d'arriver en vacances et la maison inondée. Et ça, c'est pas les enfants, ils sont pas avec les serpillères pour aider les parents. Ils s'en foutent. Enfin et puis même les parents s'en foutent aussi. Les gamins ils sont là, ils vont s'occuper, ils se retrouvent tout seuls et puis ils dessinent et puis ils vont à la plage et puis ils font leur vie et puis les parents vont gérer les problèmes. Et c'est aussi la vision que j'avais aussi du quand j'étais petit quoi. C'est en fait tu as l'impression que ta mère enfin tu c'est en grandissant que tu te rends compte que ah mais oui mais à ce moment-là quand elle venait me chercher au judo, elle venait d'aller voir sa mère qui était à l'hôpital, qui était en train de mourir, enfin tu sais et tu comprends en fait que ta mère était pas juste en fait elle existe à la sortie du judo et puis quand tu es au judo elle disparaît quoi. C'est elle a quand même une vie quoi. Donc C'était important de mettre ça dans le livre.
Oui, c'est vrai que la figure paternelle est quand même très très loin dans Une sœur. On sent qu'ils sont là,
ouais.
Mais ils laissent vraiment faire Antoine, Titi et Hélène. Oui, la mère lui dit à un moment, Antoine, bon, tu fais pas de conneries avec Hélène. Hein,
ouais, ça c'est le... moi j'aime bien cette espèce de... Il y a un truc comme ça dans l'enfance et l'adolescence où il y a un contrat qui est passé avec les parents. Il y a vraiment ce côté... Si tu es cool avec moi, je serai cool avec toi. Si tu me fais pas chier, je te fais pas chier. Et cette espèce de contrat, et c'était important pour moi de le mettre dans l'album où la mère prend Antoine et lui dit, ok, c'est cool. Enfin, je sais plus comment elle lui dit, mais elle lui dit, ouais, tu fais gaffe quand même. T'es avec Titi, il est plus petit que vous, donc pas de conneries quoi.
Oui, en sous-entendu, t'as 13 ans, elle en a 16, on sait très bien ce que peuvent faire des adolescents.
Oui, enfin, sinon, elle est plus grande, elle peut, et surtout, elle a l'air d'être comment dire, je sais pas comment dire, pas volage, mais genre, elle a l'air d'avoir envie de faire plein de trucs. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Elle a 16 ans, quoi.
Et alors justement, au tout début, on voit Antoine et Titi dessiner tout le temps à la plage, au resto, etc. Vous dessinez tout le temps avec votre petit frère. Il y a des petits côtés autobiographiques comme ça que vous avez.
Oui, c'était important. Moi, j'ai vécu une enfance très heureuse. J'ai pu m'épanouir comme il fallait. C'est vraiment hyper agréable. Et ça, c'est dû aussi en fait que par exemple, j'avais mon petit frère et on faisait du dessin et on dessinait tout le temps. Et pour moi, c'était important de le mettre dedans. Ça me, et même il y a un album que j'aime beaucoup de Baudouin. Je trouve que c'est son meilleur album qui s'appelle Pierrot. Qui est vraiment, je pense, il est dans mon top 10 des plus beaux albums de BD qui ait jamais été fait, et qui raconte son histoire où il est avec son petit frère et qui dessine, avec son grand frère, lui pour le coup, qui dessine tout le temps. Et vu que le grand frère dessine bien et qui dessine beaucoup mieux que le petit frère, et ben lui il s'était dit qu'il allait être comptable parce que le dessin c'était pour son grand frère. Et puis quand on apprend dans l'album que ben. En grandissant, son grand frère abandonne le dessin et c'est pour ça que Baudouin se met à dessiner. Parce qu'il se dit, ah mais non, mais il ne peut pas abandonner le dessin. C'était lui qui avait le dessin. Donc il abandonne ses études il abandonne son métier de comptable et il fait du dessin, il reprend le dessin. Et c'est très beau de voir comment quelque chose qui... En fait, comment dire, il y a un tronc commun. Le dessin, ça appartient à tous les deux, mais ça peut-être ça appartient plus à l'un qu'à l'autre. Et tout. Et c'est assez joli et là-dedans dans cette histoire, ils continuent à dessiner tous les deux. L'un dessine au début dessine tous les deux les Pokémon et puis au bout d'un moment, il va tomber devant Hélène qui va lui demander de faire son portrait et ça va prendre tout l'album quoi parce que à 13
pas.
Ans, imaginez dessiner le portrait d'une fille, c'est très 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 difficile.
Ben c'est difficile aussi parce que j'imagine qu'elle l'intimide, elle évidemment, est complètement évidemment. Mystérieuse, il essaye de la capter avec son portrait et finalement, on ne sait pas, mais à la fin, peut-être qu'il aura réussi à capter sa personnalité, ce qu'elle est.
Mais il y a ça, déjà, si tu ne peux pas la posséder physiquement, tu peux au moins la posséder sur le papier. Et ce qui est vraiment difficile, c'est qu'à un âge en plus où on dessine au crayon papier, qui est peut-être l'un des outils les plus difficiles dans le dessin et qu'on donne à tous les gamins, il n'y a rien de mieux pour dégoûter un gosse que de lui filer des crayons papier aussi de la gouache aussi, allez-y, filez de la gouache à un gosse et puis on verra. Ah, j'aimerais bien faire un bel aplat jaune. Ouais, bah non, tu le feras jamais. Mais c'est très drôle. Et donc le gamin, il dessine au crayon papier et puis t'es là, moi le nombre de dessins que j'ai commencé à faire où j'essayais de reproduire un tableau de Warhol, une belle photo d'une pin-up, et puis tu commences à faire les ongles, et en fait tu lui fais de la moustache et tout, c'est l'horreur, et tu jettes tout, c'est atroce, et ça me faisait marrer de remettre aussi ces souvenirs là-dedans, où il arrête pas de gommer, t'arrêtes pas de gommer, c'est l'horreur.
Et alors Hélène arrive un peu comme un enchantement, puisque les deux garçons se réveillent un matin et Antoine se réveille en pleine nuit et il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans leur chambre. Est-ce que ça, vous l'avez travaillé, comment vous avez pensé la mise en place du personnage d'Hélène ?
Ouais, c'était très important l'arrivée d'Hélène. En gros, c'est assez simple parce que lui, il se réveille pendant la nuit parce qu'ils ont trouvé quelque chose avec son frère qu'il a caché. Donc, il se réveille pour voir si la chose qu'il a trouvée est bien dans la cachette où il l'avait mis. Et tout d'un coup, ils sont dans une chambre où il y a deux lits superposés. Et puis, ils voient qu'il y a une fille qui est dans le lit. Et en fait, ce qui est assez drôle, j'ai essayé de le mettre en scène pour que quand on le voit, on se dise... Mais attends, c'est quoi cette histoire? Comment une fille peut arriver dans un lit? C'est complètement débile. Et après, au lendemain matin, il demande et puis il dit, mais c'est qui la fille? Et puis la mère fait, bah, c'est la fille d'Hélène. Tu sais, elle devait arriver hier. Et puis, mais vu que les gamins, ils sont au courant de rien, pour eux, c'est... Enfin, nous, aujourd'hui, ça nous paraît évident. Tu dis, bah oui, c'est évident. Elle est venue, elle s'est installée, eux, ils étaient en train de dormir et puis elle s'est couchée. Mais quand t'es un gamin, tu comprends pas que la logistique et tout ça. Donc tu comprends pas ces trucs-là. Donc tu vois, t'arrives et t'étais au courant de rien alors qu'on te l'a répété 10 fois. Et on dit, bah ouais, hop, bah il y a Hélène, elle a apparu, elle est comme ça. Et on va attendre beaucoup de temps avant qu'on voit ses yeux. Avant
et
qu'on
voilà,
voit un
ouais,
peu tout
c'était
ça.
Une de mes questions, ah, justement. J'ai regardé, vous avez mis, il y a 20 pages en fait, entre le moment où on voit Hélène et où on voit vraiment son regard.
Ouais, c'était important de.
Vous avez fait languir.
Et parce que c'est important de prendre le temps de découvrir un personnage, de voir déjà ses attitudes, et surtout de faire naître les a priori, de faire naître tout ça. On dit, oh, quand on la voit, elle sort et hop, elle fume. Ah putain, merde, elle fume et tout. Et donc, tu sais, c'est pas juste, elle fume et puis tout d'un coup, hop, la case d'après, elle est sympa. Elle fume, alors on se dit, merde, putain, elle fume, ils sont jeunes. Tu vois, genre, ça fait réfléchir, quoi.
Et oui, on les voit aller à la plage ensemble, et puis Titi et trop. Antoine la regardent un peu comme une bête curieuse. Ouais. Mais qui elle est
Ça me rappelle aussi ces choses quand... c'était pendant les études, j'étais un petit peu plus vieux, mais quand il y avait une fille qui j'étais fou amoureux au lycée, et à un moment donné, on prenait le même RER et pendant j'avais 3 stations avec elle. On était avec elle. Et t'es là comme ça et tu sais que t'es à 3 stations. Mais d'un côté, ces 3 stations-là, tu vas les avoir toute l'année, tu vois, parce que si vous restez à peu près potes, on était potes, donc tu sais que bah, chaque soir, t'as ces 3 stations-là pour gérer. Et toi, t'es là comme ça, et puis tu prends le temps, et puis tu fais une blague, à rigoler, tu fais, ah oh, putain, elle a rigolé, c'est trop bien, c'est genre, c'est génial. Et en fait, tout est un truc comme ça, et j'aime bien cette idée que t'as quelqu'un qui t'es tellement impressionné que tu n'arrives pas trop à faire les choses et tout, et au moindre geste qu'elle va faire, à la moindre attitude, ça y est, c'est un signe, comment est-ce que tu vas l'interpréter, comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça, et ça c'était très...
Mais Antoine, j'ai pas l'impression qu'il en soit, là, il n'est pas encore là
non,
dans ses
non,
questionnements,
oui.
Lui, il découvre...
Non, il a 13 ans lui.
Et voilà, ouais. Et avec Hélène, il va découvrir la plastique féminine.
Oui, et puis surtout, voilà, et ça c'était important, c'était... Contrairement au bouquin que j'ai fait avant, qui parle vraiment de la, comment dire, des sentiments amoureux, là pour le coup il n'y a pas de sentiments amoureux dans ce livre parce que il est beaucoup trop jeune pour se rendre compte de ça. Et puis Hélène de toute façon elle a 16 ans et puis elle est aussi dans un autre monde, elle est avec les ados. La chose dont on peut commencer à se rendre compte, c'est que je sais pas, quand il va voir, quand il voit les seins d'Hélène, en gros, il voit pas les seins d'Hélène, il voit des seins. Enfin, ça, c'est aussi simple que ça, quoi. J'ai essayé aussi de gérer toute ma mise en scène et toute mon histoire à travers ça, qui était, à un moment donné, quand on voit, je prends une case, je me prends un tiers de page et je montre un sein, quoi. Et c'est important de marquer, de pas passer à côté, de pas, se dire hop, tu fais une petite mise en scène et puis tu noies un peu le poisson tout d'un coup. Bah non, quand t'es à cet âge-là, ça te marque. Moi, j'ai les souvenirs, la première fois que j'ai vu une chatte, t'as le tableau, c'est courbé, quoi. C'est paf, t'as le truc, quoi. C'est incroyable. Et t'as beau avoir bouffé des tonnes de porno avant, non, rien n'y fait, quoi. C'est incroyable. Et c'est ça, je voulais garder cette impression. C'est pour ça que Hélène, parfois, tu la vois quand elle fume sa cigarette. Paf, elle fume, quoi. C'est important de le montrer comme ça.
Et Hélène lui fait une initiation érotique, mais pour autant, elle est assez ambivalente. On sent que elle veut le titiller, elle veut elle veut lui apprendre les choses de la vie, mais dès qu'elle est avec les grands, avec les autres ados, elle revient très vite auprès d'Antoine. On sent que elle sait pas trop où elle en est. C'est une ado, elle est paumée et elle oscille entre ouais, je veux grandir, mais je veux aussi rester un petit peu dans l'enfance avec Antoine.
Il y a de ça. Pour moi, ce qui était important dans la relation de frère, parce que moi j'ai pas eu de sœur, mais ce qui est important, moi j'étais l'aîné. Et ce qui est assez drôle, et ce qui est rassurant, c'est quand t'es tout le temps avec ton petit frère. Il y a des moments où quand ça va pas, ou quand tu t'es peut-être encore, t'es un petit parmi les grands et qu'il faut que t'ailles défricher, il faut que tu dois essuyer les plâtres, tu dois aller avec les adolescents, avec les gens de ton âge et tout ça, c'est très compliqué. Moi, j'avais tendance tout le temps à me dire non, je veux retourner avec mon frère. Moi, je veux retourner avant là, quand on est en colo et que j'étais séparé de mon frère, j'étais plus moi qui étais peiné que mon petit frère. Lui, il s'en foutait. Lui, de toute façon, il a passé son temps à t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Il fait des trucs, il se pose pas de questions. Tu vois, les petits frères, la sanction tombera après parce qu'il a la mère, il a le père, il a le grand frère sur son dos. Donc, il s'en fout, il fonce. Alors que le grand frère, quand tu flippes, t'as besoin de toi. Et elle est fille unique. Et il y a des moments où, et ça, c'est pour moi, c'est ce qui était très important avec le personnage d'Hélène, c'est que c'était pas non plus la bonne fée qui arrive, c'est génial, elle change le monde. C'était qu'en fait, elle est quand même, c'est une grosse flippée, quoi. Elle dit qu'elle a couché, elle a pas couché, on sait pas, elle a 16 ans, elle aime fricoter avec les garçons, mais tu sais pas pourquoi, dès qu'elle se. Elle angoisse, et elle se sent pas bien à certains moments, et le fait d'être avec Antoine et qu'il l'accompagne dans ses aventures, ça rassure, c'est génial d'avoir quelqu'un qui, tu sais que, comment dire. Ouais, d'être accompagné, de plus être tout seul tout d'un coup.
Et c'était ça, important de situer Hélène et Antoine à ces âges-là, où Hélène a 16 ans et Antoine a 13 ans.
Ouais, sûr. Pour moi, c'était très important. Il fallait qu'ils soient un petit peu trop jeunes et que elle, c'était aussi très important que ce soit dans ce sens-là. Si ça avait été une gamine de 13 ans avec un mec de 16 ans, en fait, lui, le mec serait déjà sexualisé, la fille. Pas encore, mais évidemment, elle serait aussi sexualisée et on serait avec une histoire d'amour bateau. Et là, on aurait vraiment du sentiment amoureux parce que c'est un cas qui est beaucoup plus fréquent. Parce que vu que les filles sont sexualisées beaucoup plus vite, sont plus matures. Là, ce qui est bien, c'est que tu te dis, il y a une bagarre entre Antoine et Hélène. Je sais pas qui gagne. Je pense que c'est peut-être Hélène qui gagne. Ça qui est rigolo, c'est que tu sais qu'il n'y aura pas de violence entre eux. Il n'y aura pas de violence physique. Et je pense que c'est déjà très rassurant. Je dis pas que loin de moi l'idée de vouloir faire un livre féministe ou je sais pas quoi, mais c'était important pour moi de montrer que on pouvait s'épanouir d'une manière, comment dire, non violente, même pas immorale, parce que ça s'appelle une sœur, ils sont pas frères et sœurs, mais c'était important de montrer que on pouvait être à peu près cool sur ce sujet-là, que c'était chouette.
C'est pas immoral du tout, non. Moi, j'ai pas trouvé.
Non, mais moi, ce qui me plaisait aussi, c'était quand même la motivation. C'est pas une histoire de motivation, mais qui est quand même cette idée que pour l'un et l'autre, c'est la sœur et le frère. Enfin, il y a quelque chose de. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait cette bienveillance qui grâce à elle permet d'avoir une relation entre un homme et une femme d'une manière très agréable. Voilà, c'était important.
Et son initiation érotique, vous saviez comment l'aborder graphiquement, parce qu'on est sur des cases assez crues et puis du suggéré, des trucs très épurés. Ça, oui, c'était une volonté de votre part, j'imagine.
C'était, oui, de toute façon, je voulais avoir un dessin qui soit le plus croquis, le plus léger possible. Un dessin qui soit assez... Un trait qui soit assez élégant, assez évocateur, permettre de faire vraiment comme on a une petite marine, enfin voilà, une petite comme les petits dessins de bateau, voilà, petit croquis, c'est les vacances, tout est beau, ah une bite, tu vois, genre c'est, hop, c'est ça, et puis hop, et puis après la case d'après, ça passe, et d'avoir quelque chose de très léger. Si j'avais eu un dessin un peu plus, même je pense à un dessin presque comme Last Man, un peu plus construit, un peu plus anime, bah ça aurait été chiant, quoi, ça aurait pas été intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit très évocateur, on ait l'impression d'avoir vu quelque chose, et en fait on a vu trois traits, c'est juste trois traits. Oh mon dieu, ça fait une chatte, incroyable. Genre, c'est... Et on l'a vu, on l'a pas vu, et puis on passe ensuite. Ça, c'est important. Ouais.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de violence entre eux, mais pour autant, moi je trouve qu'il y a quand même, ils sont entourés de violence. Ça commence par justement la fausse couche de la mère d'Hélène.
Et après, à la fin, il y a un petit drame.
À la fin, il se passe des choses. Et puis, il se fait quand même un peu casser la gueule.
Oui, au début,
il y a une petite... Avec Titi, quand il sort de la plage.
Oui, il y a une petite embrouille, mais ça reste quand même... elle est un petit peu ridicule, cette embrouille. On a l'impression que c'est très, très violent, mais il sort un couteau suisse. Enfin, je veux dire, c'est très c'est rigolo, c'est des trucs d'impré... Les gamins, c'est... Comment dire ?
Ah, moi, j'ai pas du tout senti ça rigolo. Au contraire, j'ai réussi à capter une espèce de violence dans les yeux d'Antoine.
Non, parce que ça, je l'ai vécu, mais pas à 13 ans. Je l'ai vécu en 2010, donc j'avais 26. Non, et surtout avec un couteau sous le ventre et tout, tu fais genre, merde, je vais crever en fait, en bas de chez moi. Bref, et donc tu te dis, c'est hyper dur, mais de le mettre là-dedans... Il fait beau, c'est rigolo, puis à la fin, oh, de magie, on a trouvé un peu d'argent qui est par terre. Enfin, vraiment, de changer un peu cette atmosphère, mais en gardant le côté un peu violent. C'est important parce qu'aussi, je voulais pas tout enjoliver. Quand même, l'enfance, il y a de la violence dedans. C'est des rapports brutaux. Donc, c'était important quand même de le mettre en place. Et puis, pour le coup, ils sont entourés parce que je voulais créer cette petite parenthèse enchantée qui fait qu'au moment où elle arrive, Hélène, bah en fait, les problèmes sont plus vraiment des problèmes. Même on se dit, ah, j'ai bien fait de me faire agresser juste avant parce que ça nous a donné un petit peu d'argent. Enfin, vous verrez si vous lirez le bouquin, c'est mieux construit. Voilà.
C'est un petit peu le réconfort de l'incident.
Oui, voilà. Moi, je me dis, je crois toujours. Je sais pas pourquoi. Je suis très naïf et donc j'ai toujours. Je crois toujours à la justice, mais la justice naturelle des choses, quoi. Que si tu fais quelque chose de mal, tu vas être puni d'une certaine manière, et que s'il m'est arrivé quelque chose de désastreux, c'est parce que ça va m'aider plus tard à comprendre, ou peut-être que je me serais tué sur ce vélo qu'on m'a volé juste avant. Voilà, des choses comme ça, tu vois, je me rassure. C'est peut-être aussi une mécanique de loser, un peu, de se dire que non, mais en fait, c'est très bien qu'il m'ait volé mon vélo, je suis très content. Voilà, allons-y.
Et vous avez été inspiré par différentes choses, par le cinéma ou autre, pour cette histoire ?
Oui, complètement. Pour ceux qui ont un peu qui ont vu par exemple les films de Diane Curis, Diabolomante ou La Baule Lépin, il y a vraiment cette ambiance que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle arrivait très bien à mettre en scène les relations de sœurs, les enfants, comment là il va tourner avec les enfants, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et puis après au niveau de l'ambiance, c'est juste que à force de regarder des films, à force de dès que je regarde quelque chose, que je lis quelque chose et tout, ben j'essaye de capter comment est-ce que cette personne est arrivée à faire ça, comment est-ce qu'elle, et donc je regarde, j'observe, et puis au fur et à mesure, bah, ça se recrache un peu là-dedans. Donc, quand je raconte toutes ces histoires, peut-être qu'il y a autant du Sofia Coppola, vu que j'ai regardé Lost in Translation, je sais pas, peut-être 70 fois en ces deux dernières années, en travaillant. Je regarde toujours des films en travaillant, peut-être que voilà, ça se ressent dans les histoires.
Oui, sur les petits mouvements de rien du tout.
Ouais, il y a des choses.
Les petits moments. Il y a un passage où Hélène retrouve, je crois que c'est Olivier, c'est ça,
oui.
L'ado, Et Antoine la regarde de loin, de dos, et on voit ses cheveux ondulés comme ça avec, avec le vent. Mmh. Je trouve que c'est vraiment votre patte, en fait. Vous arrivez à nous faire passer des milliards de choses avec un petit détail, une gestuelle. Et ça, c'est vraiment ce qui vous anime dans votre travail, faire passer des choses par la gestuelle plus que par des dialogues ou autre.
Oui, en fait, c'est surtout, je pense que c'est surtout avec les femmes, en fait. Vraiment, c'est vraiment le, c'est là où j'apporte un souci tout particulier. Et je pense que c'est aussi une espèce de déformation des histoires d'amour, de toutes ces choses qui nous arrivent. Quand j'avais, je sais pas, quand ça arrive à tout le monde d'être amoureux de quelqu'un, par exemple, qui ne vous aime pas en retour et qui essaye de vous le faire comprendre, et puis en fait, tu tombes dans une espèce de folie où t'as l'impression que oui, elle te dit que elle veut pas être avec toi, mais dans ses gestes, ça montre que elle voudrait être. Enfin, bref, en fait, tu commences à te créer un cinéma et en fait, c'est simple, le jeu. En fait, plus je regardais, plus j'observe la réalité, et plus je me plais à imaginer qu'en fait, je sais pas comment dire, qu'au-delà de la réalité, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu mystique, mais j'aime bien me dire qu'on n'est pas juste des bouts de viande animés qui disent bonjour le matin, quoi. Enfin, voilà, qu'il y a des choses qui se passent. Ça va plus loin, donc c'est sûr que j'ai passé mon temps à regarder les filles, ça c'est sûr.
On voit bien que les femmes restent un mystère pour vous.
Ouais, c'est toujours. Un fantasme. Toujours. Très grand.
Vous avez trouvé quelques clés pour nous comprendre.
Ouais, j'ai l'impression d'avoir compris 2-3 trucs, mais non, il y a un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps. Et non, mais c'est vrai, c'est bête, mais je me posais la question parce que en gros. En gros, je sais pas, moi, par exemple, une fille, quand je vois une fille ou une femme, je regarde physiquement et je vais dire, j'adore tel style d'épaule, tel truc, comment sont placés, comment l'ossature, le port de tête, la mâchoire, comment tout va. Enfin, bref, et je peux décortiquer, vraiment dire, tiens, ce genre de pied, j'aime pas trop, mais ça, j'aime bien comment elle a son pied. Ouais, vraiment, et d'avoir un truc comme ça. Et je sais que, par exemple, les mecs vont pas la plupart du temps dire, bah, moi, j'aime bien les fesses plus que les seins plus que voilà et on des choses et c'est drôle parce que quand tu poses la question à une fille elle va pas te forcément dire moi j'aime bien les mecs qui ont des avant-bras d'une telle longueur ou de qui ont des épaules voilà on dit ah les épaules et en fait je dis non mais en fait les épaules je m'en fous aussi un peu c'est pas ça m'intéresse pas trop après bien sûr un mec bien foutu c'est toujours plus agréable mais ce qui est drôle c'est que je leur dis mais alors c'est quoi et en fait j'en viens à comprendre que, en fait, ce qu'une fille préfère, enfin, comment dire, elle va être attirée peut-être plus par un mec qui lui renvoie une image d'elle ou qui lui envoie une image qui la flatte ou même qui est quelque chose dans le désir, quoi. Si tu vois le désir dans la personne en face, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire plus te rendre attirant quelqu'un. Et c'était assez drôle de voir ça, j'ai l'impression que oui, c'est quelque chose qui se pas dire qui se vérifie parce que c'est des grandes généralités, mais je remarque ça. C'est qu'une fille, simplement, si tu as du désir pour elle et si elle voit que tu as du désir pour elle, elle peut plus facilement ça peut vraiment la séduire, quoi. Et c'est quelque chose qui je trouve très très intéressant. Et une fois que tu le comprends, non, mais c'est vrai parce que c'est cette espèce de molette là, tu sais pas trop comment tu gères ça. Bref.
Et vous disiez
dans ma tête
oui,
c'est très clair.
vous parliez de j'aime tel pied ou pas, j'aime tel coup, etc. C'est pas un peu la déformation professionnelle du dessinateur justement qui parle là?
Peut-être, j'imagine évidemment, mais je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment purement physique qui anime, je pense, beaucoup de mecs, voilà, je pense qu'il y a un truc vraiment très physique, pur, je sais pas, il y a quand même cette espèce de trucs de la jolie fille quoi. Je dis pas que jolie fille c'est comment dire c'est une sorte de canon parce que moi les filles que je dessine pour moi, je les dessine, je les trouve très jolies. Après, c'est un style de nana, et peut-être qu'il y a des gens qui, mecs, qui aiment pas, c'est pas leur truc et tout. Je dessine pas des grands mannequins, voilà, je dessine une nana que je trouve jolie. Mais, je sais pas comment dire. Ouais, ça peut rendre fou, quoi. Ça peut rendre fou un garçon. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser comme ça un garçon qui a même pas de bouche ni rien, qui a juste des grands yeux et qui fait que de regarder. Que de regarder des filles, je me sens plus à l'aise avec ce type de garçon qui me correspond peut-être plus. Il y a ce genre de garçon-là dans Le Goût du Chlore, il y a dans plein d'autres trucs. Après, j'aime bien aussi quand même les Richard Aldana, les mecs comme ça qui se la racontent et tout, c'est toujours agréable à les faire, mais je me sens moins à l'aise pour faire passer ce genre d'émotion, quoi.
Oui, entre Adrian de Last Man,
et oui, Adrian,
Antoine de
il y a une ligne,
cette espèce de candeur
De l'enfance, quoi.
Oui, l'enfance, exactement.
Je me souviens la première fois quand j'étais en vacances, et je me rappelle exactement ça, quand ma tante, qui est en maillot de bain, une pièce, Arena noire, se penche devant moi et je vois son décolleté et je sais que, et j'ai quoi, j'ai 5-6 ans, elle lève la tête, elle me regarde, elle dit mais Bastien, et puis je fais, tu sais, je dis rien, je comprends même pas, en fait j'étais en train de regarder ses seins comme un dingue, et depuis ce moment là et ma tante, je l'adore, et ben à chaque fois que je la vois, je ne peux pas m'empêcher, je ne pense qu'à ça, quoi. Et alors comment t'expliques ça? C'est bien qu'il y a un truc un peu niqué dans la tête des mecs, quand même. Enfin, ou alors dans ma tête, il y a un truc un peu niqué. Hein. Sans faire des généralités.
Moi, je voulais revenir au dessin. Vous utilisez le noir et blanc, vous préférez le noir et blanc à la couleur?
Oui, j'ai pas besoin. Je suis nul en couleur, et donc j'ai pas besoin de couleur. Là, il me faut juste un peu de lumière. C'est pour ça que je mets un ton de plus que Paulina. J'ai besoin d'avoir un peu de lumière et d'avoir la couleur de la peau et la couleur des lèvres. Voilà, c'est aussi simple que ça, et comme ça je avec juste deux tons de gris, un noir, un blanc, je pouvais comment dire m'en sortir sur toutes les scènes qui allaient se passer. C'est facile. Par exemple, je sais pas. Oui, j'aurais vraiment pu m'en sortir. J'avais pas besoin de plus, quoi. J'avais pas besoin de. Et puis après, la couleur, il faut vraiment être très 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 fort en couleur pour pouvoir se permettre de faire la couleur sur 200 pages comme ça et tout. Moi, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui le font très bien.
Oui, mais vos nuances de gris, de noir, tout ça, ça nous suffit. On comprend complètement.
C'est... Ça dépend, en vrai. Peut-être qu'en couleur, ça serait encore mieux, ou ça serait mieux, je sais pas. Mais avec ça déjà, je pense que ça va. Ouais. Ouais, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin.
Et quand vous étiez au Gobelin, vous avez appris l'animation, finalement vous avez bifurqué sur la BD.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'était vraiment raconter des histoires, votre truc?
C'est trop long, l'animation, c'est trop long. Donc la BD, ça va plus vite, hop, tu fais ta BD, tu peux mettre... tout dépend de ton dessin, mais par contre, l'animation, je pense que ceux qui ont envie de faire de la BD, c'est quand même... plus intéressante, je trouve, de passer par une école d'animation que de passer par une école de BD, parce que en fait ce qui est important, c'est d'avoir un dessin qui soit assez, que vous allez trouver assez efficace pour pouvoir raconter tout ce que vous avez envie de raconter, et donc il faut quand même avoir un dessin un peu précis. Après, il y a des gens qui s'en sortent très bien avec des dessins très très minimalistes ou des dessins très très poussés, mais je trouve que dans un premier temps, moi, tout ce que j'ai appris en école d'animation, ça m'a vraiment libéré le trait, ça m'a fait comprendre que un dessin, tu le refais, s'il est pas bon, t'es pas obligé de le garder parce que tout d'un coup, hop, t'as fait un joli visage. Non, tu balayes, hop, tu vas chercher le bon dessin. Il faut chercher le bon dessin, pas le beau dessin. Voilà, c'est vraiment ça qui est important dans la BD.
Et plus vous sortez d'ouvrages, et plus j'ai l'impression que votre trait va vers l'épure. Est-ce que c'est d'être au contact de Rupert et Mulot aussi, qui ont un peu le même trait que vous, ou vous dites, allez, on fait fi des détails et on va vraiment...
Non, on avait la même démarche. J'ai quand même un trait qui est un tout petit peu plus solide, quand même, parce que je suis retombé sur Paulina. Et en Paulina, où vraiment t'as un trait très croquis, tremblant, et parfois il y a presque rien. Il y a un décor, c'est un trait avec un truc et tout. Donc, non, quand même, c'est un. Comment dire. Le dessin qu'il y a dans Une Sœur est très. Classique, hein, quand je dessine un oreiller, ça ressemble à un oreiller, quand je dessine un truc, voilà, je fais ça de manière très classique. Donc, mais c'est juste, quoi, il est un petit peu croquis. Je me permets. Mais moi, j'essaie quand même dans mon dessin d'être le premier truc, enfin le truc qui est le plus important à chaque fois pour valider une case. C'est toujours ces trois points. C'est la lisibilité, l'information et l'émotion. Une fois que j'ai répondu à ces trois points-là, si est-ce qu'on comprend ce que j'ai dessiné ? Oui, c'est bon. Le personnage devait prendre une bouteille, il faut qu'on voit qu'il prenne la bouteille. C'est bon, on a compris, ok, l'information est passée. Et quand il prend la bouteille, il est triste. Ok, c'est bon, on a vu qu'il était triste. Ok, hop, je passe à la case d'après. Et je fais ça souvent. C'est pour ça que je vais pas parfois m'attarder sur « Ah, j'ai pas fait le reflet du frigidaire, machin. » Non, c'est bon, on a compris que c'est un frigidaire. Hop, next.
Last Man, là on en est à 9 volumes. Mmh. Le 10e sort fin
octobre,
d'année.
Ouais.
Et ça sera en combien de volumes ?
Ça sera 12.
Donc ouais, vous savez où vous allez, ça y est.
Ouais, on a tout. Il n'y a plus qu'à faire. Et puis on a élargi un petit peu le temps de réalisation, parce que on est quand même sur les deux derniers volumes et il faut pas le rater, donc ça serait con de juste parce qu'on a envie que ça sorte vite de rater les bouquins, quoi. Donc non, on va prendre le temps, et en plus c'est quand même au niveau de l'écriture, putain, il y a plein de personnages et tout, il faut garder la tête froide et bien savoir où est-ce qu'on va, donc essayer de pas tomber dans les écueils. Et puis on a plein d'objectifs qui sont très important, je sais pas parmi vous ceux qui l'ont lu ou pas, mais on a des personnages qui ont grandi, il faut pas qu'on les perde, il faut que tout retombe un peu sur ses pattes et qu'on aille chercher quelque chose une certaine vérité. Donc c'est dur à aller, il faut être concentré, quoi.
Vous bossez comment tous les trois?
On est dans le même atelier tous les trois. La Mickaël vient un peu moins souvent avec son gamin, mais sinon non, on est tous les trois, et ça dans la BD, c'est ce qui compte, c'est très important, travailler en tout cas pour ma part, travailler en atelier avec des gens qui sont talentueux, que tu peux, avec qui tu juste le simple fait de les regarder dessiner, ça te réveille un peu, et ça c'est toujours très important. Et la BD, si t'es tout seul chez toi, ça peut être vraiment assez déprimant, quoi.
Tout à l'heure on parlait du regard d'Hélène qui avait mis beaucoup de temps à arriver, et dès le début on voit vraiment les deux billes noires d'Antoine, un regard hyper présent. Justement, vous vouliez les confronter, est-ce que vous aviez quelque chose en tête justement avec ce regard hyper, hyper présent, hyper intense?
Ben, après j'avais aussi ce truc de j'ai un garçon qui regarde une fille. Et après c'est très bête, hein, je parle souvent de garçons, de filles, de femmes, de mecs et tout. C'est pas pour faire une grande différence, c'est juste pour dire que il faut à un moment donné dire voilà, on a des filles, on a des garçons, et le garçon regarde la fille. C'est aussi simple que ça. Là pour le coup c'est ça, quoi. C'est pas si j'avais eu, je sais pas, une étudiante qui regarde son prof de 50 ans, et ben ça serait elle qui aurait des yeux grand ouvertes, et puis le prof il aurait ses lunettes, et on les verrait pas. Donc c'est il faut voir qui est en train de regarder qui, et c'est pour ça que c'est très important. Et moi ce que j'aimais bien, c'est le fait que elle ait les yeux clairs, et ça c'est un truc qui me plaisait, parce que au moment où on allait voir ses yeux, on allait dire ah tiens, elle a les yeux clairs, et parce qu'on a là depuis le début, on avait personnage avec des billes noires. Et je trouvais ça chouette. Ça lui donnait un petit côté spécial, quoi.
Et avec leurs 60 €, ils vont aller s'acheter des bières, ils vont sortir, ils vont aller faire la fête, etc. Est-ce que Antoine a quand même envie de découvrir ce monde ? Parce qu'on sent qu'il est un peu le cul entre deux chaises, et... Est-ce qu'il a envie de... Est-ce que vous vouliez montrer qu'il avait
vraiment
envie de voir ce qu'était l'adolescence, ou en tout cas devenir plus grand?
Moi, je vous demande vraiment si, en fait, il y a une... Est-ce qu'il y a... Enfin, c'est quand même le mythe pour moi. Est-ce qu'il y a une adolescence, en fait? Je me demande vraiment. Est-ce que c'est pas juste enfance, âge adulte, et ça passe même par quelque chose de radical, quoi? Je sais pas trop s'il y a cette espèce d'adolescence, si les gamins sont si... perdu que ça, ou si compliqué. C'était important pour moi, c'était c'était important de comment dire de là ça se passe en comment dire en une semaine, mais ça aurait pu se passer encore beaucoup plus vite. Je sais pas, j'en sais rien. Je pense à des enfants et un bombardement. Enfin, genre dans Jeux Interdits, où est-ce qu'elle est l'adolescence? Est-ce qu'elle est pas tout de suite elle est tout de suite dans le monde adulte? J'en sais rien. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans dans cette espèce de. Parce que c'est une période où on ne sait pas si ça dure un an, si ça dure 10 ans, est-ce qu'on en est vraiment sorti de l'enfance, est-ce que. Et donc c'est pour ça que c'est toujours le petit Antoine, il a envie de retourner en enfance, il a envie de retourner en enfance, et ben paf, il va tomber directement dans l'âge adulte, quoi. Et c'est pour ça, le truc d'adolescence, c'est toujours une frontière qui est assez intéressante à traiter.
Et votre mise en scène est très cinématographique, je trouve. Les cadrages, vous inspirez vraiment de ça?
Oui, et puis moi c'est la manière dont j'ai commencé dans le cinéma d'animation, je faisais un peu de storyboard et puis dans mes cadrages, j'aime vraiment ça. Je suis pas forcément à chaque fois je disais quand j'ai commencé la BD, je disais ah, ben, c'est mon cinéma du pauvre. Et les mecs de la BD, c'est genre mais ça va pas te dire ça, espèce de connard. Je dis, ça va, c'est bon. Genre, je dis, bah, non, mais on s'en fout. Moi, j'aime bien dire ça parce que j'ai l'impression de comment dire, pas faire du cinéma, mais le cinéma, c'est quand même, c'est un monument dans le fait de, si on veut raconter une histoire, c'est un monument parce qu'on a l'image, le son, tout. Enfin, c'est incroyable. C'est une espèce de, on arrive, on peut pas aller vraiment encore plus loin que ça, quoi. Mais ce qui est bien dans la bande dessinée, c'est qu'il y a certains outils que le cinéma n'a pas, quand même, heureusement, qui sont l'ellipse, qui sont le fait de figer une émotion, le fait de supprimer des informations, qui tout d'un coup, bah, si on a envie de faire que le perso, qu'il n'y a plus de décor, paf, il n'y a plus de décor. Tu fais ça dans un film, c'est très compliqué. Il y a plein de choses comme ça. Et là, je commence au début, je le prenais vraiment comme le cinéma du pauvre. Et aujourd'hui, je vois tout le potentiel qu'il peut y avoir dans la mise en scène en bande dessinée. Et vraiment, j'ai essayé à un moment donné, on m'a dit, ah oui, mais tu sais faire de la BD, alors tu vas pouvoir faire du cinéma. Parce que dans la tête des gens, j'ai l'impression qu'ils se disent que c'est la même chose, je comprends pas trop pourquoi. Et en fait, très vite, j'ai compris, ben non, je ne sais pas réaliser un film, je suis nul, je sais même pas écrire, je ne sais pas maîtriser les mots, j'aime pas parler, enfin, je ne sais pas parler aux gens, leur expliquer ce que j'ai dans la tête, c'est trop compliqué. Donc, au moins en BD, tu fais ton dessin, tu as tes personnages, mais c'est quand même, vraiment, je trouve que c'est pas pour. Vraiment, la mise en scène en BD, tu peux vraiment aller très très loin, et je trouve ça parfois dommage. Qu'on n'exploite pas plus que ça la mise en scène bande dessinée, enfin comment dire que parfois ça reste un petit peu trop soit on tombe dans l'illustration ou soit dans le côté très théâtral et tout, et c'est un peu dommage. On peut vraiment avec les romans graphiques, ces choses-là, machin, on peut aller vraiment un peu plus en profondeur des choses, on peut genre on n'est pas obligé, même si Astérix c'est incroyable, on n'est pas obligé de faire que du Asterix, c'est que du Tintin, quoi. Ils ont créé un vocabulaire, c'est sûr, mais on peut aller un peu plus loin, quoi.
Oui, il y a peut-être moins de limites. On peut mettre en scène des histoires un petit peu plus difficiles à aborder que dans le cinéma. Je pense au Molon de la colère.
Oui, c'est fou. Imaginez le monde de la colère dans la vraie vie, enfin au cinéma, c'est un peu compliqué. Mais après, dans le dessin animé aussi, on aurait complètement pu s'en sortir. Hein, quand je parle de BD, mais si on prend Miyazaki, voilà, Miyazaki, il n'y a rien à dire, il a tout compris dans le dessin animé. Et on va chercher ça, et on va le chercher. Donc, non, pour le coup, je trouve que vraiment, je me rends compte au fur et à mesure d'en faire qu'il y a vraiment un vocabulaire incroyable, que juste en mettant deux cases, l'une à côté de l'autre, on peut raconter, ça peut raconter tellement, c'est assez incroyable.
Et justement, avec Les Melons de la Colère, c'est votre BD pédopornographique
Ouais.
incestueuse.
Ouais. C'est mon
C'est
livre le
sorti
plus.
juste après Paulina.
Oui. C'était assez drôle d'ailleurs, pour les libraires c'était très drôle.
Oui.
Les gens achetaient Paulina et ah mais super, il y a les melons, et tant mieux, comme ça au moins. Mais non, c'était j'ai quand même pris ça sur le ton de l'humour et tout, même si je pense que c'est mon livre le plus politiquement le plus abouti que j'ai fait de toute ma vie. Donc oui, c'est des gros fantasmes, quoi. Donc après moi je me battrais toujours pour c'est du fantasme, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai envie de moi mon fantasme c'est de voir des canards enculer des gosses, bah voilà, c'est mon fantasme. Et est-ce que je vais en prison pour ça? Non, bah je suis désolé. C'est j'aime bien ce schéma, ça me fait marrer. Donc c'est j'ai toujours ce c'est et c'est parfois compliqué pour les gens qui n'arrivent pas à décrocher, n'arrivent pas à... Non mais ça veut dire c'est déjà quand on pense que je sais rien. Des gens prennent au pied de la lettre la Bible, donc c'est vrai que c'est compliqué pour l'histoire des canards et des gamins d'arriver à se détacher. Enfin voilà, c'est des histoires, c'est très bien d'y croire, c'est super. Et à un moment donné, il faut savoir détacher la réalité et l'histoire. Et le problème, c'est que sur le plan du cul, de la censure et tout, c'est de plus en plus compliqué. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Il y a 3 ans, il y a une loi qui a été votée qui dit qu'une image pornographique, un dessin pornographique et une photo pornographique a exactement la même valeur à la loi, par rapport à la loi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as dessiné un gamin, j'en sais rien, tu vas en taule, quoi. Heureusement, en France, on n'en est pas encore là, mais vu qu'on copie les ricains, on va se retrouver peut-être bientôt avec ça, quoi. Donc, c'est encore très compliqué.
Bon, en tout cas, vous ne vous mettez pas ni censure, ni limite, rien du tout.
Non, heureusement.
Vous aimez bien vous moquer des gens.
Non, mais sans rire. Non,
je pense à Bob surtout.
Oui, non, mais en plus, dans la BD, il n'y a pas d'argent. Donc, t'as encore moins de pression. Hein, c'est même pas comme au cinéma et tout. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, tu peux vraiment raconter tout ce que tu veux. Et les gamins peuvent aller acheter ça tranquillement. C'est le pied. C'est trop bien.
Et le côté pas de limite, avec un humour un peu trash parfois, vous êtes un peu multicasquette, un peu geek, un peu trash, ultra sensible, vous êtes un peu, votre travail il est un peu bipolaire.
Ouais.
Vous avez besoin de ça justement, pour de l'ultra sensible justement avec une sœur pour sortir un petit peu.
Et moi j'ai plus l'impression que c'est le contraire qui est vraiment... moi, les Yannick Noah, les Zazie, tout ça, moi, je m'en méfie vachement, quand même. Hein. Les mecs, depuis 50 ans, ils pensent comme ça. C'est flippant. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment évolué dans leur goût, dans tout ça. Quoi. Le mec qui va raconter la même chose, qui va avoir le même discours pendant 50 ans de sa vie, c'est compliqué, quoi. Moi, je crois plus au... Moi, quand quelqu'un qui me dit « Ah, mais j'ai voté... je sais pas, j'en sais rien, j'ai voté ultra à gauche aux élections, puis là j'ai voté Fillon, et tu dis ouais mec, je sais pas, c'est cool, ouais, s'il avait envie, et puis après il ira voter communiste, enfin j'en sais rien, ouais, je sais pas comment dire, à un moment donné c'est cool d'avoir des convictions dans la vie, mais il faut pas non plus putain, c'est toute une histoire de contexte. Si demain il y a une centrale nucléaire qui explose, ça va quand même affecter. Tu vas pas dire genre non, je continuerai à voter. je sais pas. Non, mais c'est débile, quoi. Mais à un moment donné, c'est une sorte de contexte. Tu grandis. C'est pas trahir ses convictions. C'est que on a envie de raconter tout. Donc moi, quand je passe tout d'un coup, je passe de envie d'avoir envie de parler du sentiment amoureux d'une certaine manière, d'un truc, et puis 2 ans plus tard. J'ai envie de parler, de faire un gros bouquin de cul, puis j'ai envie de faire autre chose. Tout dépend de l'ambiance, quoi. Mais raconter tout le temps la même chose, c'est compliqué, ouais, c'est triste.
Pour vous, c'est quoi une bonne histoire?
Alors ça, par contre, c'est un truc... Pour moi, je dirais pas forcément une bonne histoire, mais une bonne BD, un bon film, un bon truc, pour moi, c'est avant tout... C'est les personnages. C'est vraiment, je mets tout sur les personnages. Par exemple, un de mes films préférés, c'est L627 de Bertrand Tavernier, qui est un chef-d'œuvre du film policier. Et ça tient parce que il y a Lulu, quoi. Il y a le personnage de Lulu, et Lulu va. Et il y a pas d'histoire dans ce. Il y a pratiquement pas d'histoire. Il y a une histoire d'amour qui est très belle, qui est en fil rouge, mais sinon c'est juste des flics qui vont essayer d'attraper des méchants, ils les laissent passer, ils arrivent à... Voilà, c'est juste un jeu chat à la souris, mais il n'y a pas de gagnant à la fin, il n'y a pas de perdant, mais on a vu Lulu. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est avant tout des personnages. Je peux voir un film avec une histoire, mais débile ou complètement idiote ou n'importe quoi. Si le personnage est crédible et qu'il est bon, c'est ça. Et c'est comme un bon personnage, c'est une belle naissance. Et c'est aussi fou que quand t'as un bébé qui naît, c'est quelque chose de très humain, quoi. C'est que tu dis, ouais, c'est génial, c'est incroyable, t'assistes à une espèce de miracle. Après, quand tu dis, ah, tu sais que ce gamin, après, en fait, il a pas fait Sciences Po, il a fait ce truc-là, tu dis, ouais, bon, ok, c'est cool s'il s'en sort, mais enfin, c'est bien l'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est le gosse, quoi. C'est lui, quoi. Donc voilà, moi, je vois vraiment ça. Toujours, à chaque fois que j'ai aimé une histoire et que je suis touché, c'est parce que y a un personnage qui m'a vraiment parlé et que j'ai vraiment adoré, quoi. C'est pour ça que je sais pas, moi n'importe quel film avec Stallone, je peux pas, je suis obligé d'adorer. Moi je vois Stallone, je chiale, quoi. Il est magnifique. Et ben tous les films qu'il a fait, je les adore. Voilà, c'est comme ça. Hein, Après, il en a fait vraiment des très mauvais et j'ai un peu plus de mal, mais parce que c'est chiant à regarder, que c'est pénible. Mais à chaque fois qu'il est là, il est trop bien. Super Stallone.
Eh bien, merci à tous d'être venus.
Merci, merci.